chronique de Canal Académie.
On retrouve Jacques-Louis Binet, correspondant de l'Académie des Beaux-Arts.
Bonjour, à propos de l'exposition Degas et le Nu, qui a lieu actuellement au Musée d'Orsay jusqu'au 1er juillet 2012, d'abord des références littéraires. C'est important parce qu'on a beaucoup écrit sur Degas et il faut en profiter. Première référence, le catalogue qui a été fait par les deux conservateurs responsables, Jacques Ford de Boston, Xavier Rey d'Orsay, et le catalogue est comme tout ce genre de catalogue très complet et donne énormément d'informations. Deuxième texte essentiel, celui de Valéry, Degas dans dessin. Valéry n'est plus à la mode depuis 1960, mais on ne peut pas dire qu'il n'est pas beaucoup connu et beaucoup écrit sur Degas. Donc là, il est très bon, il s'est complètement désintéressé de la peinture de son temps, mais Degas, il connaissait très bien. Troisième référence très intéressante, celle d'un petit livre qui vient de paraître à l'heure où les éditeurs s'intéressent plus au catalogue qu'aux peintres dont ils sont responsables, Edgar Degas par Jean-Paul Morel, avec un titre que toute la critique a repris, « Je veux regarder par le trou de la serrure ». Et puis la référence connue, essentielle, le grand livre d'Henri Loiret, Degas, publié chez Fayard en 1991. Dans un premier temps, donc, l'exposition est consacrée à ce qu'ils appellent le corps classique. C'est intéressant parce que ça montre le début de Degas et comment il est passé de la ligne qu'il apprend au Louvre, qu'il apprend ensuite en Italie, au dessin. Et on voit très bien ce passage dans un des dessins que j'ai choisi, d'après Ingres, de 1855, La baigneuse de Valpinceau. La reproduction est mauvaise et ça paraît peut-être de mieux voir ce qu'apporte le dessin et l'importance que ça pouvait avoir pour Degas. En particulier, les dégradés, le dos qui est très clair, le reste qui l'est beaucoup moins, le passage de la jambe au lit qui est très très bien montré. Donc déjà, un très grand dessin. Et puis, beaucoup plus classique, mais à mon avis, j'aime moins, Petite fille spartiate provoquant des garçons, 1860. Là, cette fois-ci, c'est un véritable original. Mais elle montre bien la prédominance à cette époque, pour Degas, du dessin sur la couleur. Degas, c'est d'abord un homme du dessin. Et il écrivait à propos du dessin de l'anatomie, « Les muscles, je les connais, mais j'ai oublié leur nom ». Et on ne peut pas ne pas commencer par le texte de Valéry à propos du dessin. Je ne sais pas d'art qui puisse engager plus d'intelligence que le dessin. Qu'il s'agisse d'extraire du contexte de la vue la trouvaille du trait, ou de résumer une structure, ou de lire une forme avant de l'écrire, ou que l'invention domine le moment, que l'idée se fasse obéir, se précise et s'enrichisse de ce qu'elle devient sur le papier, le dessin est essentiel. Et Valéry propose même une nouvelle histoire de l'esprit qui n'a jamais été écrite, et il placerait Degas entre Bell et Mérimée. Deuxième partie de l'exposition, le dessin adopté par le corps et le corps en péril. Et cette partie est très bien introduite par Henri Loiret qui avait écrit que Degas pose la douleur. Donc ses premiers dessins portent sur la douleur, avec deux sortes de dessins qu'on va énumérer tout à l'heure. D'une part, les dessins dans les maisons closes et d'autre part la douleur. Alors, pourquoi, question que je pose aux organisateurs, cette exposition qui s'appelle Le Nu, elle est coupée en sections qui s'appellent Le Corps. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et là, je reprends Valéry. Il écrit que, autrefois, seuls les médecins, les peintres et les habitués des maisons closes, les amants, connaissaient Le Nu. Pour les autres, il apparaissait comme le symbole soit du beau, soit de l'obscène. Et chez les peintres, eh bien c'est le contraire. Le nu a toujours été l'objet du monde les plus importants. Par exemple, pour l'esthéticien, peindre était caressé, jointe de volupté dans un acte sublime, la possession de soi-même et la possession de la belle. Pour Ingres, le fusain poursuit la grâce, écrit Valéry jusqu'au monstre. Et sur l'étoile de Rembrandt, la chair et la boue, mais la lumière en fait de l'or. Et Degas là-dedans. Et là, il définit très bien l'œuvre de Degas. Non pas le dessin, mais toute l'œuvre. Toute sa vie, Degas a cherché dans le nu d'observer sous toutes ses faces cette quantité incroyable de poses, ce système unique de lignes qui formule à tel moment d'un corps avec la plus grande précision. Voilà la première définition du nu, selon Valéry, et non pas du corps. Alors, ce nu, eh bien, il va être défini dans plusieurs mondes. Premier monde, le nu exploité. Et tout le travail qui n'a pas été connu pendant la vie de Degas, qui a longtemps été interdit, qui est Degas dans les maisons closes. La technique est assez particulière, ce sont des monotypes, c'est-à-dire qu'il prend une plaque métallique sur laquelle le motif est inscrit à l'encre, avec un ou deux exemplaires, l'un ou l'autre pouvant servir de matrice pour constituer ensuite un pastel. Et cette série est par définition très intéressante et très originale. Très originale parce que, contrairement, par exemple, aux nus de Toulouse-Lautrec, Degas ne les dessinait pas, ne les gravait pas sur place. Il les gravait dans son atelier. Et ça serait très important, on le retrouvera tout le temps. Donc, on retrouve dans ces monotypes, avec souvent des clairs-obscurs, une totale adéquation entre la franchise du regard et l'aspect confidentiel intime de l'exercice. C'est un double jeu qui est assez original pour tous ceux qui sont occupés du nu, et j'ai devant moi au moins deux nus importants, qui s'appellent simplement « Oui, des nus », tout court, dont l'un est un monotype qui est devenu pastel, où il est vrai que le personnage grossier, c'est l'homme qui consomme. Et celle qui garde toute sa noblesse, c'est la prostituée. Et ça, c'est très important. De telle sorte que les rôles sont un peu inversés, que Françoise Cachin dira à propos de ses nus, Dieu sait si elle a dit des choses importantes sur l'art de cette époque, elle dira que ses nus avaient pris un caractère émouvant. L'émotion paraît surtout dans ce monotype que je vois, qui s'appelle le client sérieux, où le client est grossier, laid, vulgaire, alors qu'elle se coiffe encore et garde une certaine distinction. Et sans doute que les conservateurs ont eu la bonne idée de montrer à côté un horrible tableau d'Henri Gervex que les conservateurs continuent à montrer, ce qui me semble une erreur parce que c'est vraiment l'image de ce qu'il ne fallait pas faire à ce moment-là. Mais Gervex était aussi un ami de Degas qui s'appelle Rolas, un tableau qui traîne partout, qui est aussi mal fait que vulgaire. Mais justement, ça permet de situer Degas dans ce monde avec ce que disait Françoise Cachin, c'est-à-dire un caractère presque émouvant. Et ensuite, Degas va passer de ces monotypes que peu de gens ont vus dans leur époque au nu observé, c'est-à-dire le nu que tout le monde connaît. Et là encore, très important, la critique actuelle a écrit observé par le trou de la serrure. C'est-à-dire que ces nus naturalistes, ces nus exposés, sans être indiscrets, le peintre reste collé au personnage et les personnages font quelque chose. Alors, j'ai oublié de citer, c'est important, à propos des maisons closes, un très beau tableau qui reste très discret, qu'on appelle intérieur, et aussi de viol, qui date de la même époque, où là encore, les deux complices sont très éloignés l'un de l'autre. Elle garde toute sa noblesse et lui semble saisi d'un certain remords. Avec les grands nus naturalistes, le monde change et en particulier d'abord la technique. Aux tailles douces des années 70, se substitue la lithographie qui va être ensuite associée au monotype. Ensuite, le dessin s'émancipe et on voit apparaître des gros traits de fusain ou de pierre noire et plus important encore, le pastel va presque toujours, très souvent en tout cas, prendre la place de la peinture. Deuxième chose dans ces grands nus, les nus sont toujours en action. Les nus font toujours quelque chose. Ils rentrent ou sortent du bain, ils s'accroupissent, ils s'agenouillent, ils se couchent, ils se lavent autour d'une cuvette, d'un tube, d'une baignoire. Elles s'essuient, se coiffent, se grattent, s'habillent, mettent leurs bas, enlèvent leurs chemises, jamais de repos ni d'immobilité, toujours un mouvement. Et ce mouvement est presque toujours vu de dos, sans figure ni visage. Et Degas écrivait « Ce qu'il me faut à moi, c'est exprimer la nature dans tout son caractère, le mouvement dans son exacte vérité, accentuer l'os et le muscle, et la fermeté compacte des chairs. Mon travail ne va pas plus loin que l'irréprochable dans la construction. » Voilà ce qu'il écrit à propos de la sculpture. Ça sera exactement la même chose à propos du dessin de la peinture. Alors là, se succèdent des pastels admirables que tout le monde connaît, mais qu'il faut regarder de plus près parce qu'ils sont très beaux. Là encore, l'intimité et en même temps la pudeur. Et on parle beaucoup de misogynie. Ces nus sont tellement exacts, tellement vrais. Les femmes pensent tellement à ce qu'elles font qu'ils ont pris une immense beauté. Alors, comme exemple, il y en a beaucoup. Presque toujours des pastels sont différents. J'ai devant moi la femme au tube de 1883, où la structure du corps est exprimée de plusieurs manières, soit par des traits, soit par des volumes clairs, soit au contraire par des volumes sombres. La toilette, alors il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exemples de toilettes, où il y a un accord de bleu qu'on revoit partout, qu'on revoit dans la cuvette, qu'on revoit dans la chemise de celle qui se lave, qu'on revoit dans le cadre de la glace. Autre nu admirable, le tube, toujours le tube. Et là encore, un exercice sur le corps qui est prodigieux, avec une partie du dos qui est claire, une partie qui est beaucoup plus foncée, des volumes qui sont parfaitement exprimés, une main qui s'accoude au tube et qui relie le personnage à l'endroit où elle est, un immense art de l'action, et toujours la même action, vue de dos, sans qu'on aperçoive le personnage qui est représenté. Et puis un thème qui va répéter en permanence, c'est-à-dire la coiffure. Femmes se coiffant, il y en a beaucoup. Ces coiffures sont toujours longues, sont toujours grandes. Elles font appel à des grands traits. Et les cheveux ont souvent une couleur différente du reste du corps. Là, j'ai une coiffure qui est presque rouge, sur une robe qui est blanche, avec un fond qui est bleu et jaune, du très, très, très grand art du pastel. Et à la fin de sa vie, le nu, là encore, se transforme. Avec d'abord une transformation de la technique, c'est-à-dire qu'il continue les pastels, bien sûr, mais en même temps, il revient de temps en temps à la peinture. Et il y a un bon exemple qui sont deux nus qui se posent de 1896, qui portent toujours les mêmes titres, parce que maintenant, les pastels ou les peintures de Degas portent toujours, presque toujours les mêmes titres. C'est ce titre-là, s'appelle « Après le bain », c'est « Après le bain » ou « Avant le bain ». Et c'est très intéressant parce qu'ils sont faits la même année et Degas utilise dans ces deux pastels, après le bain, une technique différente. L'un est essentiellement fait de très très longilignes avec une couleur qui est presque mêlée, qui est mélangée, qui est totalement accordée avec un travail sur le bleu, un travail sur le blanc et sur le corps. Un autre travail qui joue plutôt toujours le corps de dos sans voir la tête et qui joue plus souvent là sur la clarté et l'aspect sombre. Et puis tout au fond, dans la glace devant le bain, eh bien, les mêmes couleurs bleues qui sont reprises. Et puis à l'opposé, la même année, tout à fait autre chose. C'est-à-dire un fond qui pourrait presque s'inspirer, alors qu'il ne l'aimait pas du tout, de la technique de Seurat. C'est-à-dire, cette fois-ci, les couleurs sont l'une à côté de l'autre, pas du tout mélangées, réalisant un véritable croisillon des couleurs du tableau, le bleu, le rouge, et qui s'accorde parfaitement au corps. À la même époque aussi, le dessin est transformé. C'est là où on voit apparaître de magnifiques fusains de corps, de nus, cette fois-ci faits soit à la pierre noire, soit au fusain, et on arrive maintenant aux derniers tableaux qui sont superbes, on va appeler ça, oui, c'est les derniers nus, admirables derniers nus, avec finalement pratiquement le même thème. Et ce qu'il y a de très intéressant, c'est qu'ils sont montrés en même temps. Ce thème, c'est toujours le même, c'est après le bain. Alors, il y a deux huiles, il repasse à l'huile comme si l'huile était plus noble que le pastel. Il a une sorte de remords sur l'huile qu'il a un peu abandonnée. Et c'est toujours la même femme, ou sans doute la même, mais de toute manière, elle est dans la même position. Position impossible. On a oublié de dire qu'il prenait les positions les plus diverses. Eh bien, celle-ci, elle sort du bain. La baignoire est là. Elles sont couchées sur le lit, couchées sur le ventre, dans une attitude très, très singulière. Et la couleur est admirablement traitée avec des aplats et des arrondis sur le corps, sur le dos, alors que le reste de la toile est au contraire plutôt plate, plutôt rude, avec le bord de la baignoire et avec le mur qui cadre l'ensemble. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à côté, on voit le Degas contemporain qui fait des photos. Et à côté figure une photo qu'il a prise lui-même, toujours dans la même année, 1996, qui représente exactement la même chose. Et on voit la différence. On voit que la photo met l'accent sur les plis des draps, très peu sur le corps, que le corps est un peu effacé par le tirage, qu'on voit assez mal, alors que c'est le contraire sur le tableau, sur l'huile, ou au contraire, le corps est totalement mis en évidence. Alors, je parle peu des sculptures, ce qui est une erreur. Je voudrais simplement citer la petite danseuse, parce que pour moi, c'est une image de la pauvreté. Tout le monde l'a vu. Cette pauvre petite fille est malheureuse. Elle est mal habillée. Elle est toute petite. Elle est presque difforme. Elle est travaillée par ce corps de danseuse qu'il faut répéter, qu'il faut cultiver tous les jours. Et c'est la seule sculpture que Degas a montrée de ses vivants. Tout le reste de l'œuvre sculptée était resté non tiré. Et c'est simplement après sa mort qu'elle fut coulée en bronze et montrée. Et ça faisait partie de son travail. Devant un nu, Degas dessinait, Degas sculptait surtout à la fin de sa vie, puisqu'il voyait mal. Donc on voit encore, et c'est très attachant, la trace des mains qui travaillent l'argile et que le bronze souligne un jeu d'attitude invraisemblable avec toutes les positions qui sont là, évoquées, retrouvées, recoupées. C'est presque une leçon de gymnastique. C'est vraiment l'entraînement du corps de ballet de l'opéra tous les matins. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette œuvre, il ne l'a jamais montrée. C'était pour lui, c'était son travail personnel. Et ça, ça définit plutôt ce dont je ne parle pas, c'est-à-dire son caractère impossible, son isolement. Au fond, il ne voyait que la famille Roire et que Valérie, qui avait épousé une parente des Roire. Il restait très seul. Et je terminerai par la citation de Valérie sur tout ce travail de Degas. « La grâce ni la poésie ne sont pas ses objets. Ses ouvrages ne chantent guère. Ils ne s'abandonnent jamais à la volupté naturelle. » Et Valérie conclut « J'aime cette rigueur. Il est des êtres qui n'ont pas la sensation d'agir, d'avoir accompli quoi que ce soit, s'ils l'ont fait contre eux-mêmes. » Et c'est là peut-être le secret des hommes vraiment vertueux, on pourra ajouter surtout du grand talent de Degas. Donc, voyez le caractère paradoxal de cet immense artiste, qui est classé comme un impressionniste, mais qui n'a jamais peint en plein air, qu'on considère comme un peintre, mais qui préférait sans doute le pastel, et qui a vécu très longtemps, c'est-à-dire qu'il est mort longtemps après les Demoiselles d'Avignon, et quand pratiquement Monet finissait aussi son œuvre. Donc un peintre très singulier entre les deux siècles, magnifiquement défini par Paul Valéry.